Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, notre invité nous emmène en Corse. Et soit vous l'avez déjà lu, soit vous avez croisé un de ses livres dans une bibliothèque. Je ne vous dis pas, surprise. Mais puisqu'on parle de bibliothèque, c'est celle de Régis Geoffrey que nous visiterons aujourd'hui. Un tour aussi chez Stanislas Rigaud, notre libraire. Et c'est Héloïse Goy qui fermera la boutique avec sa chronique jeunesse. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Françoise Bourdin.
Bonjour.
Je suis content de vous recevoir.
Moi, je suis très contente d'être avec vous.
Vous publiez Un si bel horizon, c'est chez Plon. Nous sommes en Corse,
oui.
Au Cap Corse précisément, et encore plus précisément à l'hôtel Bleu Azur. C'est une institution locale. C'est l'arrière-grand-père qui l'a créé, c'était une auberge à l'époque. Son fils et le fils de son fils ont repris l'affaire. Le dernier en date, c'était Ettore, mais il est mort. Et c'est sa femme Lysandra qui règne maintenant. Elle a 4 enfants au profil différent. On va y venir, mais d'abord... Pourquoi êtes-vous parti en Corse et pourquoi au Cap Corse en particulier?
Alors la Corse, j'en avais d'excellents souvenirs. J'étais allée très très souvent en vacances avec mon beau-père qui avait un bateau là-bas à Saint-Florent. Et je me suis aperçue que, bien qu'ayant écrit près de 50 romans, aucun ne se déroulait en Corse. Et que finalement ce paysage que je connais bien, que j'ai tellement apprécié, ben, j'allais le mettre en scène dans un roman. Et le Cap Corse, c'est vraiment mes paysages préférés. Je préfère ça au sud de la Corse. On n'est pas très nombreux à préférer le Cap. Moi, j'aime beaucoup.
C'est le 49e roman, effectivement. Je ne l'ai pas précisé, on en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que vous êtes allé sur place, éventuellement dans cet hôtel qui aurait un nom différent pour écrire?
Non, j'invente toujours le lieu. Si vous prenez un lieu existant, vous êtes sûr qu'il va y avoir des tas de gens qui vont venir vous voir pour vous dire
la porte, elle est pas là.
Ceci, cela, voilà, exactement. Donc je préfère inventer mon lieu. Et puis en l'inventant, il est dans ma tête, je le vois, j'y suis. Écrire un roman, ça prend à peu près 6 mois. Bah, pendant 6 mois, j'étais dans cet hôtel. Je vivais dans cet hôtel, dans ma tête, et voilà, et c'est très bien. Non, je crois que dans le cadre d'une fiction, il ne faut pas être trop précis. Alors oui, on est au Cap Corse, ce sont les vrais paysages, et évidemment... Quand je dis qu'ils vont dans tel restaurant, ce sont des restaurants qui existent. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même vérifié parce que, quels que soient les souvenirs, même récents qu'on puisse avoir d'une région, un restaurant a pu fermer. Et là, c'est pareil, le lecteur va dire « mais ça n'existe plus !»
Et est-ce que c'est là aussi que vous avez piqué l'idée du chef du restaurant de l'hôtel qui veut absolument mettre des noms corses pour les plats, mais vraiment les noms corses à l'ancienne. Si bien que le patron de l'hôtel, le gérant, lui, se dit que les clients ne vont plus rien comprendre et que c'est un peu de couleur
exactement.
Locale, ça va, mais pas trop.
Les Corses aiment tellement leur identité corse, surtout, on va dire, la génération des seniors. Ils sont vraiment à défendre tout le temps la Corse, tout ce qui est corse, et effectivement tous ces mots, tous ces noms. Qui, pour un client venu du continent, puisqu'on vient du continent, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Eh bien, ça ne leur dit rien, il faut tout leur expliquer, ça fait perdre du temps au maître d'hôtel, ça exaspère le gérant. Ça, ce sont les petits problèmes d'un restaurant, ça m'amusait de mettre ça en scène aussi.
Et alors, vous avez dit que les paysages, vous les aviez en tête, mais aussi les couleurs et la lumière. Comment on écrit la lumière?
Ah, c'est tout le problème et la joie d'un auteur. Vous n'avez pas l'image, comme à la télé ou au cinéma. Vous n'avez pas la musique. Vous n'avez pas l'interprétation des comédiens. Vous êtes donc obligé de tout créer avec des mots. Moi, je suis une grande amoureuse des mots. Depuis que j'ai lu Baudelaire et Colette, je sais qu'un mot ne peut pas être remplacé par un autre, malgré tous les analogies qu'on peut avoir chez soi. Et voilà, donc, décrire la lumière, décrire la couleur... d'écrire l'odeur des plantes, eh ben, il faut essayer de trouver les mots qui vont parler au lecteur.
Alors les comédiens, les voilà. C'est donc la famille Bartoli qui gère l'hôtel. L'un des enfants, Lucas, est avocat. Il a pris un peu ses distances avec l'hôtel, mais bon, tout va bien pour lui. Il vient très souvent. Mais 2 des enfants participent à la gestion. Ils sont allés se former à Lausanne, à l'école de l'hôtellerie. C'est Julia et Ange. Et puis il y a Orso qui est là aussi. Mais qui, on a un peu de mal à définir son statut pour l'hôtel parce qu'il a une particularité très intéressante, mais qui, a priori, vous tenez à cœur, vous vouliez explorer cette dimension-là.
Tout à fait.
Vous le présenter.
Orso est borderline, c'est-à-dire que On ne peut pas le mettre dans une institution. Il est, comme son nom l'indique, juste au bord. Il n'est pas fou, mais il a des tendances. Il peut avoir des tendances colériques, des tendances angoissées, des tendances suicidaires. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Et ça m'intéressait de dire que quand ce cas-là arrive dans une famille, moi évidemment j'ai connu une famille et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est vraiment à la charge des gens, et ça n'est pas à la charge d'aucune instance, ni d'un hôpital, ni de... Et c'est un gros problème de se dire, et après moi, qui va s'en occuper? Qui va le prendre en charge? Ces gens-là souffrent souvent, non pas d'un manque d'affection, mais de l'impression d'être mal aimés, ce qui les désespère. Donc en plus, il faut les manier avec beaucoup de précautions.
Et oui, on lui passe tout alors qu'il fait des conneries énormes. Hein. Voilà. Il a plié la voiture plusieurs fois.
Tout à fait. Mais si on l'engueule, il va être désespéré et menacé de se flanquer par la fenêtre. Donc on ne peut pas l'engueuler. Il faut toujours contourner les choses avec lui et puis essayer quand même qu'il ait une vie à peu près normale. Mais tout le monde s'y met dans la famille. Et ça, c'est le côté chouette d'une famille, le côté clan. Chacun participe, chacun a un œil sur Orso.
Et oui, parce que c'est dangereux pour lui, mais c'est éventuellement dangereux pour les autres. Mais je ne sais pas si on peut tout raconter. Donc
je pas aller. Et pour les clients de l'hôtel aussi.
Et pour les clients de l'hôtel, éventuellement. On lui passe tout, mais on ne passe rien, en revanche, aux autres. C'est-à-dire que Lysandra, la chef de famille, elle est stricte. Hein.
Oui, elle est stricte parce qu'elle a aidé à faire de cet hôtel ce qu'il est devenu. Elle et son mari ont travaillé comme des fous. Chaque génération a réussi à faire monter en gamme cet hôtel. Aujourd'hui, c'est un hôtel haut de gamme. Ça demande beaucoup d'énergie et elle pense qu'il lui faut beaucoup d'autorité pour gérer tout ça. À la fois pour gérer tout son personnel, bien sûr, mais aussi pour gérer son fils et sa fille qui la pousserait bien un petit peu sur le côté, la mettrait bien un peu au rencard et la ringardiserait. Et elle n'a pas envie de ça. Elle veut garder les rênes du pouvoir. Elle ne se sent pas vieille, elle. Oui, elle voit bien que le temps passe et conflit de génération. Mais de là à laisser sa place, non, elle n'est pas d'accord.
Alors, il y a une particularité dans ce roman, et ce n'est pas la première fois, c'est que c'est compliqué pour un chroniqueur, par exemple, d'en faire une chronique, parce que ce n'est pas un roman avec, il se passe une situation de départ, et puis un élément perturbateur, et puis à la fin, la résolution. C'est plein d'histoires qui naissent et qui se terminent et qui reviennent et jusqu'à la fin, comme ça.
Et j'aime bien ça.
Vous
n'écrivez
pas avec un plan, j'imagine.
Non, je pars pas avec un plan au départ. Je pars avec mes personnages, le thème que je veux développer. Et là, c'était gérer une affaire en famille. Et puis quand j'ai ça dans la tête, je me lance parce que il y a très longtemps, je faisais toujours un petit synopsis. Et bien sûr, à la fin du roman, ça n'avait plus rien à voir avec le synopsis. Donc, quel est l'intérêt d'en faire un? Aucun. Donc voilà, je me lance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience, mais je me lance en toute confiance et je les laisse vivre selon mon humeur. Bien sûr qu'ils vivent selon mon humeur, mais finalement, on a l'impression qu'ils ont leur propre vie et que parfois, une réflexion désagréable dans un dialogue va modifier ma propre perception du personnage. Et ça, c'est la construction de ce mécano géant qu'est un roman me réjouit toujours autant.
Et vous vous surprenez vous-même, j'imagine, pendant
parfois,
l'écriture?
Oui, parfois, tout à fait. Soit de mettre un peu d'humour à certains moments alors que je ne me sentais pas tellement dans un état euphorique particulier, ou au contraire d'avoir une espèce de nostalgie par rapport au devenir de certains personnages. Vous savez, c'est vraiment un métier exaltant quand on le fait à fond. Moi, je sais, quand je commence un livre, je ne veux plus beaucoup bouger de ma maison. Je n'aime pas m'éloigner, je ne vais pas prendre 8 jours de vacances, je ne vais pas perdre le fil de l'idée. C'est trop, trop agréable d'écrire.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Françoise Bourdin pour Un si bel horizon, son nouveau roman, 49e roman, à l'hôtel Bleu Azur, donc chez la famille Bartoli, au Cap Corse. On a parlé d'Orso Borderline, qui est un des 4 enfants, mais il y a aussi un problème avec Ange, le fils modèle, un peu quand même, très séducteur et tout, mais qui fait bien les choses, qui est quand même sérieux. C'est pas Lucas qui lui est avocat et tout ça, tout bien tout son rapport, mais voilà, je l'aime bien moi, Ange. C'était mon préféré, je vous le dis.
Oui, c'était a priori mon chouchou aussi.
Ah. Et alors, en revanche, il est fiancé à Inès.
Il est fiancé à une Espagnole très arriviste, qui, le mariage est programmé. Avant le mariage, évidemment, son frère avocat, Lucas, lui dit, on passe chez le notaire pour faire un contrat de mariage. Et là, évidemment, Inès fait la colère en disant « Je ne signerai jamais, comment on se méfie de moi ?» Et ça se termine par une rupture. Voilà, les fiançailles sont rompues, le mariage n'aura pas lieu.
Ah, mais fallait pas le dire, Françoise Bourdin. Non, c'est très très rapide dans le roman, ça arrive à la 30e page, donc tout va bien. Mais c'est ça ce dont je voulais vous parler, et vous avez quasiment répondu en disant qu'elle est arriviste. Moi, je les trouve durs avec Inès quand même. Un contrat de mariage, c'est pas rien. Et puis c'est Lysandra surtout qui y tient. Mais elle n'est pas gênée parce qu'elle, c'était une pièce rapportée aussi. Elle a un peu oublié ça.
Tout à fait.
Et c'est elle qui a pris la possession de l'hôtel.
Bien sûr.
Aha.
Mais eux n'ont pas divorcé. Tout s'est très bien passé.
Mais Inès et Ange non plus pour l'instant.
Tout
ils ne sont même pas mariés.
Tout à fait. Mais Lysandra, elle a un problème vis-à-vis d'Ange. Après elle, puisque théoriquement, elle décédera avant Orso, avant son borderline. Ce sont ses enfants qui vont devoir gérer Orso. Est-ce que Inès, à la tête de quelqu'un qui veut s'occuper d'un être un peu particulier, n'ont pas vu par Lysandra ? Elle n'a aucune confiance dans cette femme. Elle pense vraiment qu'elle est là pour prendre un peu le pouvoir à bleu azur. Et voilà. Et donc, elle la trouve profondément antipathique. Elle n'a pas envie que son fils l'épouse. Mais elle n'a rien dit. Sauf que c'est Inès qui ne veut pas signer ce contrat de mariage. Et là, tout le monde dit à Ange, c'est curieux qu'elle ne veuille pas signer. D'autant plus qu'un contrat de mariage, c'est toujours révisable. On peut le changer. Mais d'entrée de jeu, elle ne veut pas le signer. C'est un mauvais point pour elle. Ça donne une assez mauvaise image d'elle.
Je me fais l'avocat du diable parce que Inès prend cher quand même dans le roman. Et en fait, en lisant, je me suis dit, mais Françoise Bourdin, j'ai l'impression qu'elle n'aime pas non plus cette Inès. Et après, je me suis dit, mais je vais peut-être un peu loin dans le symbolisme. En fait, est-ce que Françoise Bourdin, c'est pas Lysandra, tout simplement?
Ça pourrait. J'aurais certainement un côté chef de famille. D'abord, j'ai divorcé deux fois. Donc, depuis 20 ans, je vis toute seule. Je vois mes enfants, mes filles, mes gendres, mes petits-enfants tous les week-ends. Oui, j'aime bien réunir la famille autour de moi. Je me sens un peu dans un rôle de chef de famille. Alors oui, certainement, de tous mes personnages, je suis plus Lysandra que l'un des autres, mais je suis un peu tous à la fois, vous savez. On met toujours des petits bouts de soi dans chaque personnage.
Et est-ce que vous saviez si Inès aurait, si ça avait eu lieu, pris le pouvoir et se serait mal conduit ou en tant qu'auteur, vous interdisez de tout savoir?
Je pense qu'elle aurait essayé. Je pense qu'elle aurait essayé parce que si je ne le pensais pas, je ne l'aurais pas rendue antipathique comme ça.
En fait, c'est aussi un roman sur les liens familiaux. C'est oui. Toutes les intrigues, j'ai dit qu'il y en avait plusieurs comme ça qui se développaient, c'est autour de ça, ça tourne autour de ça. Et notamment, il y a un point aussi intéressant, c'est qu'elle est complètement opposée à Pia, la femme de Lucas, donc le frère de Ange, qui elle est la femme parfaite.
Exactement.
Mais on les oppose en permanence quand même.
Oui, parce que Pia a un côté femme parfaite, femme qui ne contrarie jamais son mari, alors que Inès est beaucoup plus autoritaire. Inès a, je pense, la ferme intention de prendre le pas sur Ange et d'être celle qui porte la culotte dans le ménage. Ce qui ne va pas forcément aller à Ange si ça se fait de toute façon. Mais comme il est amoureux, il est aveuglé, il veut ce mariage, il ne l'aura pas. Dommage pour lui.
Il y a Julia aussi qui, elle, est célibataire, mais qui a un enfant, Matteo. Et bon, on se doute bien qu'à un moment, on va s'en occuper. Effectivement, ça arrive. Et elle rencontre un des clients de l'hôtel qui s'appelle Guillaume Valmont, qui est photographe par ailleurs. Et on sent tout de suite qu'il va se passer quelque chose. Mais
oui.
Pourquoi Guillaume Valmont? C'est pour les liaisons dangereuses? Parce que justement, je me suis dit, oula, il y a un indice, ça n'a pas
non,
si
non,
bien se passé
pas,
que ça.
Je n'avais pas fait le rapprochement. J'essaie toujours, pour les noms propres, de faire attention, de prendre des noms très répandus. Par exemple, pour la famille Bartoli, j'ai regardé quels étaient les noms de famille les plus répandus en Corse. Il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent tout d'un coup se sentir visés, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais oui, Julia, c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup parce que voilà, parce qu'elle a élevé son enfant toute seule et que elle se méfie pas mal des hommes depuis qu'elle a été abandonnée par le père de Matteo et que il fallait quand même à un moment ou à un autre qu'elle ait une jolie rencontre. Ça valait la peine d'essayer de percer son armure.
Oui, et on sent que c'est en fait on l'a pas vu venir, mais c'est là où la lumière naît en fait. C'est
oui.
avec Julia quoi.
Exactement. Et puis moi, j'aime bien quand ça démarre mal dans un couple. Et parce que eux, vraiment, les premières rencontres ne sont pas très concluantes. Ça aussi, ça fait des situations amusantes à dénouer. Dénouer les fils, ça fait partie du travail du romancier. C'est un travail vraiment plaisant.
Et il y a un moment où il devient une sorte de sauveur. Je ne vais pas raconter comment, mais ça, c'est vraiment une articulation pour les histoires d'amour très efficace.
Oui.
C'est le mythe du héros.
Exactement. Celui qui a fait un truc, ah waouh, ah oui là, ça change tout.
Et c'est aussi pour ça qu'il est adopté par les autres.
Bien entendu.
Parce qu'il y a un moment, il vient boire un verre, mais il n'est pas client de l'hôtel, sauf que le bar est privé. Et Ange, qui est par là, lui dit « Non, c'est privé, mais sauf pas pour voilà, le sauveur de... » Trois petits points, je ne dis pas. Il y a ce côté-là aussi, le bunker que peut représenter une famille comme ça, et qu'il faut prendre d'assaut, en fait.
Exactement, qu'il faut prendre d'assaut, et c'est vrai que ce n'est pas très, très évident.
Ou avoir le mot de passe.
Les pièces rapportées, comme on dit, c'est amusant cette expression « pièces rapportées ». Oui, il faut arriver à s'intégrer dans cette famille. Hein. C'est, moi, j'aurais eu du mal, mais c'est bien parce que ça a donné du mal à mes personnages.
Un si bel horizon, le titre, pourquoi ? Comment vous choisissez vos titres ? Vous avez une méthode particulière ?
Les titres, c'est très compliqué. Ça donne toujours lieu, chez mon éditeur, avec toute l'équipe, à des discussions sans fin. C'est des vraies boîtes à idées. Et quand enfin on met la main sur un super titre, on se dépêche d'aller consulter le logiciel Electre et on fait « zut, il est déjà prêt
». Et c'était votre idée ?
Non, alors « Un si bel horizon » a finalement été un peu l'idée de tout le monde. On était resté sur 3 ou 4 possibilités et c'est celle-là qui plaisait à tout le monde parce que un bel horizon, bien sûr, c'est la Corse, évidemment, au sens propre, mais au sens figuré, c'est aussi ce qui attend tous ces personnages.
Mais quand vous écrivez, on va en y venir tout de suite, mais... Est-ce que sur votre fichier d'ordinateur, vous avez le titre ?
Non, jamais. Non. C'est toujours sur les contrats, pareil. Les contrats que je signe avec mon éditeur.
C'est marqué quoi ?
C'est jamais le bon titre.
Roman alors, 49 ?
Voilà, c'est ça, exactement. Roman 2022, voilà.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre, le retour de la vengeance. Avec Françoise Bourdin, Un si bel horizon, c'est son 49e roman chez Plon. Vous êtes toujours avec nous, Françoise Bourdin. 15 millions de livres vendus en tout. Comment ça a commencé ?
J'ai publié très tôt, très jeune. J'ai publié 2 romans, j'avais une 20aine d'années, chez Julliard. Et puis après, je suis partie faire autre chose, parce que j'avais une jeunesse très, très agitée. J'aimais la vitesse, j'aimais les chevaux, j'aimais les voitures. Voilà, j'avais 1000 choses à faire. Après, j'ai eu envie de me marier, d'avoir des enfants et tout. Puis un beau jour, je me suis dit, bon, j'ai toujours continué à écrire pour mon plaisir, j'ai des romans dans les tiroirs, je vais republier. Alors, ça ne s'est pas fait facilement. Ça a été très difficile de retrouver un éditeur. Mais mes coups de chance, j'ai fini par en trouver 2 en même temps. C'est De Noël et La Table Ronde. Donc, j'ai publié chez eux. Et puis, un beau jour, j'ai rencontré mon éditeur, Belfond, chez qui j'ai publié tout le reste de mes livres. Parce qu'avec Belfond, j'ai trouvé vraiment mon public, mon lectorat.
Mais ça a commencé quand, le succès gigantesque ?
Alors, ça a commencé justement chez Belfond, avec Les Vendanges de Juillet. Je me souviens, c'était le directeur de l'époque, Tony Cartano. Bon, on m'avait dit que les chiffres étaient bons. Voilà, mais moi, personne ne m'attendait. J'avais vraiment tout à recommencer. Et puis, il m'invite à déjeuner et il me dit « Vous ne feriez pas une suite, un deuxième tome ?» Et là, je me suis fait « Ok, c'est qui marche bien. » Et bien sûr, j'ai fait le deuxième tome. Et à partir de là, le lectorat s'est mis à grossir. J'ai été assez boudée par les médias, mais ça m'était égal dans la mesure où les chiffres étaient de mieux en mieux, le lectorat s'agrandissait, je voyais que des lecteurs contents dans les salons. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, si j'ai pas de presse, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir des lecteurs.
Mais ça a explosé d'un seul coup ?
Ou non,
alors c'était tout doucement,
ça s'est construit.
Voilà.
Ça s'est construit d'un livre à l'autre, toujours sur une pente ascendante. Et ça, c'est formidable parce que ça m'a évité d'avoir la grosse tête.
Et alors, vous parliez de Baudelaire tout à l'heure, vous êtes comment comme autrice avec votre éditeur, est-ce que vous faites comme Baudelaire et vous dites « je tiens absolument à cette virgule, ne touchez pas à mon texte » ou alors est-ce que vous laissez un peu vous danser avec votre éditrice
oui,
ou
tout
éditeur,
à fait.
Savoir comment on fait, on
voilà,
s'arrange.
On est totalement complice avec mon éditrice. Bon, aujourd'hui, avec évidemment l'expérience que j'ai, on ne me contredit plus beaucoup. Mais je suis toujours... je pense que tout est perfectible. Et donc, je suis complètement ouverte à la discussion. Quand elle me dit, par exemple, que peut-être tel personnage secondaire n'est pas suffisamment développé, j'y réfléchis. On peut toujours améliorer un texte, lui apporter des choses avec un œil neuf. Parce que quand on est complètement immergé dans son texte, l'œil neuf vient quand les épreuves arrivent. C'est-à-dire quand ce n'est plus votre police de caractère, ce n'est plus votre mise en
que ça
page.
Ça ressemble au livre qui va être publié. Quoi.
Voilà, et là, vous le voyez d'un autre œil. Mais bon, non, je ne suis pas comme Baudelaire, je n'exige rien de mon éditeur, sinon une excellente complicité, bien sûr. Mais je crois qu'à chacun son métier, et les vaches sont bien gardées, c'est vrai. Les éditeurs savent ce qu'ils font. Et je pense que les auteurs qui veulent se mêler de tout ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Pareil pour les couvertures. Les couvertures, certains auteurs veulent des choses très compliquées, très, très artistiques et tout. Et les commerciaux en face vont leur dire « c'est pas vendeur ». Or, ce qu'un auteur veut, aucun de mes confrères ne me fera croire le contraire, c'est vendre des livres.
Justement, où est-ce que vous écrivez physiquement ?
Dans mon bureau, dans ma maison. J'habite à la campagne, j'habite à un village dans l'Eure, et à l'orée de la Normandie. Et j'adore cette maison, je l'ai achetée il y a 20 ans. Je l'ai achetée à un historien, à André Castelot, qui avait beaucoup écrit là. Et je me suis vraiment installée dans cette maison avec plaisir, avec vue sur la forêt, sur la colline. Et je crois qu'aujourd'hui, je pourrais écrire nulle part ailleurs que dans ce bureau, en regardant mon jardin. C'est un endroit magique.
Mais il est grand, il est petit, il y a des affiches.
Il était petit et puis il s'est agrandi récemment. J'ai fait un petit peu de travaux. J'aime bien faire des travaux dans ma maison, l'améliorer toujours.
Ça devait être coton pour écrire avec les travaux.
Oui, alors pendant plusieurs mois, j'étais obligée de me rapatrier à l'intérieur de la maison. Pour avoir un objet que j'aime, j'ai fait descendre le petit bureau Louis XVI qui appartenait à mon père et que j'adore. J'ai posé mon ordinateur dessus. Du coup, je n'avais plus aucune place, même pas pour un stylo. Et j'ai travaillé comme ça pendant quelques mois. Un peu malheureuse, mais bon, une fois que j'étais dans mon texte, j'oubliais le contexte.
Vous écrivez en silence, en musique ?
Oui, non, j'écris en silence. La musique m'influencerait trop. Vous savez, je suis fille de chanteur lyrique, j'ai écouté beaucoup, beaucoup d'opéras. Moi, si vous mettez un duo déchirant de Puccini, je ne peux pas vous écrire une scène gaie, c'est impossible. La musique influence mon humeur et mon état d'esprit, donc je ne le fais pas, j'écoute de la musique en dehors. Et puis, j'ai vraiment besoin du silence.
Ça vous angoisse pas, le silence, le vrai ?
Non, pas du tout. Non. D'autant plus qu'à la campagne, c'est jamais vraiment le silence. Ou vous avez un coq ou un paon qui fait du bruit, ou bien mes chiens aboient parce que quelqu'un est passé sur le chemin, ou bien une boiserie se met à craquer. On n'est jamais dans un vrai silence. Mais ce sont que des bruits que j'identifie comme faisant partie du fond et qui ne me perturbent en aucun cas.
Et vous avez une discipline ? C'est laborieux ou pas ? Il faut flâner avant ou alors vous êtes devant en attendant que... Oui, d'accord, je vais faire ça.
C'est jamais laborieux parce que si ça devient laborieux, je pars faire autre chose. Je ne veux pas que l'écriture soit un pinsomme. Elle est jubilatoire, elle ne peut pas devenir une corvée. Je suis très, très matinale. J'ai gardé à mon époque chevaux de course le fait d'être très matinale, ce qui veut dire que à peu près vers 7 heures le matin, je suis prête, douchée, habillée et devant mon ordinateur en me disant « Alors, où en étais-je » En plus, 7 heures du matin, le téléphone ne va pas sonner. Vous êtes sûr d'être tranquille.
Chevaux de course, c'est-à-dire ?
Eh bien, quand j'avais une quinzaine d'années, je suis beaucoup montée dans des écuries de course. Il y avait très, très peu de femmes à l'époque. J'ai même pris une licence de jockey. Enfin, on ne disait pas jockey, on disait cavalière. Et j'ai passé, je pense, 3 ou 4 ans à Maison Lafitte, pratiquement 3 matins sur 4. Voilà. Et franchement, monter un cheval de course, c'est exceptionnel. C'est mieux que n'importe quelle voiture rapide.
Et vous avez des chevaux ?
Ah, j'en ai eu, j'en en ai plus maintenant. J'en ai eu, ma fille aînée est beaucoup montée aussi. Son dernier cheval est venu passer sa retraite à la maison.
J'ai dit, c'est le 49e roman. Le 50e, ça va être un truc un peu particulier ou vous faites comme si de rien n'était ?
Je crois que je vais faire comme si de rien n'était. Mais sans doute, c'est quand même un anniversaire. Ça va me trotter dans la tête, je suis sûre. Ça va me trotter dans l'inconscient.
Faire revenir un personnage, peut-être. Le premier ou un truc comme ça.
Peut-être, parce que c'est amusant. C'est comme dans les films, quand
rigolo.
On fait passer une silhouette. Oui.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Françoise Bourdin qui publie son 49e roman chez Plon, Un si bel horizon. Il est l'heure de visiter une bibliothèque. Régis Geoffrey vient de publier son nouveau recueil de microfiction. Ça s'appelle Microfiction 2022. C'est facile. De toutes petites nouvelles, très très courtes, une page ou deux, mais beaucoup. Le livre fait 1000 pages. C'est savoureux. On en lit une par-ci, une par-là. Un torrent d'inventions. C'est chez Gallimard. J'ai profité de l'occasion pour voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour. J'adore votre bonjour.
Merci de nous accueillir. On est chez vous, à Paris, dans un appartement. Et là, on est dans votre salon. Et la première chose, en fait, qui m'a frappé, c'est que je ne vous savais pas si sportif. C'est-à-dire qu'il y a des machines de guerre, de torture. Dans le salon, il y en a trois. Un vélo, un truc, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Deuxième chose qui m'a frappé, mais ça, c'est à cause de vous. Simenon, vous avez une sorte de passion pour Simenon, parce qu'en fait, vous aviez préparé quelques livres comme ça. On va parler des bibliothèques ensuite qui sont là, mais sur la table, il y a 10 Simenon.
Oui, puis c'est des volumes où il y en a une dizaine.
C'est l'intégrale, en fait.
Non, c'est-à-dire que j'ai mis les six noms parce que je me suis dit, si on me demande ce que je lis depuis quelque temps, et en fait, c'était un auteur que je connaissais pas et que j'aimais pas, d'ailleurs, six noms, et ça fait peut-être 4 ans que c'est une véritable toxicomanie, c'est de cet ordre-là, quoi. Ah oui. Je lis toujours des livres de Simenon, puis regardez les livres, vous voyez, il y en a 12 par bouquin, quoi. Donc en réalité, ça doit représenter 50 livres, là.
Mais qu'est-ce qui sécrète de la dopamine dans votre cerveau, à votre avis, quand vous lisez Simenon ?
Ben, c'est une addiction totale, déjà, dans la mesure où il y a une sorte de vertige, parce que souvent les auteurs ont une œuvre finie, tandis que Simenon a une œuvre infinie, c'est-à-dire qu'à la rigueur, vous pouvez passer toute votre vie à lire Simenon, et ce sera jamais fini parce que je crois qu'il a écrit 200 livres ou plus même.
Quand vous avez fini le dernier, vous vous souvenez plus du premier, quoi.
Parfois, on se souvient des autres. Non, c'est pas. Et en plus, c'est pas du tout l'auteur qu'on imagine. Moi, j'ai toujours eu horreur des romans policiers, et puis surtout particulièrement de Maigret, parce que je suis d'une génération où à la télévision, on nous infligeait Maigret. C'était quelque chose. Ça donnait un peu une nausée. Ouais. Non, c'était en plus. Il y avait ces acteurs pas toujours très ragoûtants, là, qui étaient toujours très gros, à la limite de l'apoplexie. Puis c'était les plans de l'époque interminables. Vous savez, ça pouvait durer, le type il fumait sa pipe. Voilà, donc j'avais très mauvais souvenirs.
C'était lyrique, quoi, en fait.
Voilà, oui, tout à fait, c'était contemporain.
Quand est-ce que vous avez mis le doigt dans l'engrenage de Simenon ?
Ben, je pense que c'est il y a 4 ou 5 ans, et c'est en lisant Pédigré. Pédigré, c'est mémoire, enfin, c'est un roman très autobiographique qui se passe à Liège et qui est vraiment merveilleux. Quoi. C'est un roman merveilleux, c'est un roman où Simenon raconte son enfance tout en l'arrangeant, puisqu'il se met fils unique alors qu'il a un frère. Je crois en fait ce qui me repoussait chez Simenon, ce sont ses interviews. Qu'on entend audio, télévisé parfois, mais audio sur les radios, parce que j'entends la voix de quelqu'un qui ment. Alors peut-être que ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression qu'il m'en raconte n'importe quoi.
Qui fait du spectacle, quoi.
Même pas, qui raconte sa famille comme il veut, etc. Je crois qu'il a eu des drames. Je ne connais pas bien son histoire, mais je crois que sa fille s'est suicidée. Il y a eu des tragédies dans son histoire. Et j'ai découvert un grand auteur, quoi, voilà, un auteur qui m'a beaucoup, et puis qui m'aide dans la vie, parce que c'est quelque chose à laquelle je peux me raccrocher, c'est-à-dire lire Simenon. Lire Simenon, ça peut être un refuge, voilà.
Mais est-ce que tous les écrivains sont pas un peu mythomanes ?
Ah sûrement, mais là simplement c'est que, vous savez, c'est peut-être pas vrai, j'avais l'impression simplement qu'il jouait un peu le personnage Simenon, qu'il jouait son personnage Simenon et que je trouvais ce personnage un peu agaçant, voilà. Donc je préfère, et à l'écrit, je l'ai découvert à l'écrit, mais il a pas de chance parce qu'il a pas le génie des titres. Donc les plus merveilleux de ses livres, à part Pédigré, les titres sont très très mauvais, d'une façon générale, quoi.
Mais malgré ça, ils sont quand même rentrés dans l'imaginaire. Le chien jaune, par exemple, tout le monde connaît.
Oui, il est rentré dans l'imaginaire depuis très longtemps. Hein.
Non, mais je veux dire, la force de ces romans ont fait que ces titres, aussi basiques soient-ils, existent, quoi.
Oui, mais enfin, il y en a qui sont extrêmement mauvais. Hein. Je ne sais pas si je vais en tomber sur un. Il y en a qui sont catastrophiques, hein, je ne sais pas lesquels vous dire, mais qui sont, par exemple, Monsieur Bébé, ou ce genre, la disparition de Monsieur Bébé, le titre est quand même lamentable, quoi, alors qu'en réalité, c'est un livre magnifique, etc., etc. Je ne sais plus comment une autre s'appelle, Mamselle Machin, alors que c'est un livre extraordinaire. Enfin, je pense qu'en réalité, il en publiait tellement à la fois que le titre, c'était la dernière chose à laquelle il pensait, et je pense que l'éditeur n'avait pas le temps non plus de discuter sur ce sujet, donc ça partait comme ça, parce que c'était, je crois qu'il en publie un tous les 2 mois ou un par mois à un moment, donc c'était...
Sur les Simenon a été déposé un exemplaire d'un nouveau roman d'un jeune écrivain, Louis-Ferdinand Céline, qui s'appelle Guerre, c'est évidemment le roman qui a été retrouvé l'été dernier. Juste, on va parler de Céline, mais sur cette histoire des manuscrits qui, donc, je rappelle, ont été volés pendant la libération, pendant que Céline était à Sigmaringen, qui fuyait les représailles. Et il n'a jamais retrouvé tout un tas de manuscrits. Et ils sont ressortis l'été dernier avec un type qui les avait subtilisés, enfin, on lui avait donné, on lui avait confié, en lui disant de les montrer au monde simplement après la mort de la veuve de Céline. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire ?
L'histoire en elle-même est rocambolesque, mais ce qui est intéressant, c'est le résultat. C'est le livre que j'ai lu, là, que vous avez lu aussi, « Guerre » de Louis-Ferdinand Céline. Et là, c'est extraordinaire, parce qu'on n'est pas avec quelque chose de secondaire. On est là d'emblée avec une œuvre courte, mais qui est du même niveau que Voyage au bout de la nuit ou que Mort à crédit. On est dans du très très grand Céline, notamment les premières pages et même les autres. On est dans la description qu'il fait de la guerre, donc quand il se relève de sa blessure, et qu'il erre, etc., et qu'il trouve des soldats anglais. Enfin, c'est une des descriptions les plus bouleversantes qui aient pu être écrites sur la guerre de 14, et Dieu sait qu'il y en a eu. Alors c'est du Céline, bien entendu. Et il y a tout, il y a le rire de Céline avec les parents qui arrivent alors qu'il est blessé, qu'il est à moitié mort et qu'ils se plaignent que le commerce ne marche pas, etc. Et puis en plus, il y aurait presque quelque chose de... On peut imaginer, je crois que ça a été écrit au début des années 30, on pourrait même imaginer qu'il n'avait pas écrit des pamphlets. Donc on peut se dire que là, il n'y avait plus d'ambiguïté. Imaginez qu'il soit mort d'une crise cardiaque 6 mois après, on n'avait que le Céline dont on n'avait pas... Oui, je pense qu'il y a un problème chez Céline, c'est que ces dernières années, on ne savait plus comment l'aborder. Parce que il y avait les pamphlets revenaient sans arrêt sur la table, et là, d'après ce qui me semble, on est à une époque où il les avait pas encore écrits. Alors on peut même s'imaginer un Céline qui n'aurait pas écrit les pamphlets, un personnage qui aurait écrit ses livres et qui serait mort après avoir écrit ces manuscrits qu'on a retrouvés avant de publier les pamphlets.
Vous avez été soulagé en lisant Guerre et en vous disant ah, c'est un très très bon roman et pas un fond de tiroir.
Ah, j'ai été émerveillé. Alors là, ah oui, ça a été un grand choc. Hein. J'imaginais pas du tout ça. Oui, c'était inimaginable d'ailleurs. Et le roman qui va sortir, qui est un roman de 600 pages, je crois que c'est encore plus extraordinaire, parce que j'avais parlé à quelqu'un chez Gallimard qui m'avait dit oui, je l'ai lu, puis il était relativement réservé sur celui-là, puis il me disait mais alors le livre qui va sortir, alors donc je pense que je pense que là si on a à nouveau un grand livre qui va sortir, et c'est le cas, ce sera peut-être encore devant, enfin on ne peut pas faire des classements, mais devant le voyage et devant Mort à crédit, parce que là il est dans la pleine plénitude de son talent. C'est-à-dire, c'est une période où il a donc écrit Mort à crédit, il a écrit il doit avoir 50 ans à peu près, ou 45, il est dans la pleine plénitude de son talent, donc c'est pas un débutant. Donc et là on nous a dit par exemple oui, c'est un brouillon, mais écoutez, attendez, c'est Céline. Un brouillon, c'est Céline, quoi.
C'est un maître littéraire pour vous, Céline?
J'ai pas tellement de maîtres, mais c'est un maître tout court, quoi. J'ai pas de maître. Ce qu'il y a, c'est que moi, je peux pas dire que j'ai vraiment de maître. Moi, j'ai beaucoup été influencé. Marqué par la littérature russe, par exemple. J'ai beaucoup lu de Gogol quand j'étais jeune, Dostoïevski. Après, j'ai été... Céline, Proust, enfin, les auteurs classiques ou Balzac.
Mais vous ne m'avez pas répondu sur la question des manuscrits. Vous trouvez ça détestable que ça ait duré si longtemps? Vous trouvez ça tellement romanesque que ça valait le coup?
Ah ben là, on est dans un... Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas, mais c'est extravagant comme histoire. Quelqu'un qui garde les manuscrits 20 ans, qui fait la retranscription, l'éditeur qui, en définitive, je crois qu'ils n'ont pas voulu se servir de son travail de 20 ans, je crois qu'ils en ont fait une autre, etc. C'est assez farfelu comme histoire.
Vous vous êtes dit c'est génial ou quel salopard?
Ah ben ça a un côté génial, oui, c'est un côté inimaginable. Et puis surtout dans l'histoire de l'humanité, c'est un grand mot. Je vois pas d'autres histoires pareilles, parce que là on peut s'attendre à tout. Imaginez qu'il y ait une œuvre de Proust qui ressorte, des livres de Balzac, enfin on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Hein.
Justement, la question des manuscrits, c'est assez intéressant de nos jours, puisqu'il y en a plus vraiment. C'est-à-dire que tout est tapé à l'ordinateur, vous compris, j'imagine, non? Il y a des romans que vous avez écrits à la main?
Non, jamais, sauf un. Je vais vous montrer de loin, tiens,
si je retrouve. Mais c'est un qui a été publié?
Non, je ne ferai peut-être pas publier, mais... Non, je vais vous montrer, parce que... Alors, je vous montre de loin, mais c'est juste pour vous montrer un truc, c'est que je suis très fier de moi, parce qu'il n'y a pas une rature.
Oh, c'est génial.
Ça fait 230 feuilles, 230 000 signes, parce que je l'ai fait faire la transcription. Et donc, voilà, là c'est, ça ne m'arrive jamais, mais là, c'est...
C'est dans un cahier, en plus, on pourrait le dire comme ça.
C'est dans un cahier, c'est le premier G, comme on dirait, c'est comme les brouillons de C. Et en fait, on s'aperçoit qu'en le faisant retranscrire pour le relire, il n'y a pas grand-chose, en fait, à changer. Donc, je pense que ces histoires de brouillons, pas de brouillons, je pense que ça peut se poser chez un jeune écrivain, mais imaginez un acteur qui va imaginer, je ne sais pas, moi, on parlait de Jean Gabin, qui va monter sur une scène pour improviser, vous n'allez pas le... Donc je pense que quand on possède un peu le langage, ou du moins le sien, donc, enfin, en tout cas, je ne parle pas de moi, mais là, en ce qui concerne Céline, le brouillon est quand même hallucinant et extraordinaire. Voilà.
Non mais attendez que je comprenne, parce que là, je parle peut-être pour l'histoire. Fabien, il faut bien enregistrer ça. Le manuscrit, là, c'est un vieux roman que vous avez écrit, non, ou c'est tout nouveau ?
Non, je l'ai écrit il y a un an. J'ai terminé il y a un an. J'ai écrit tous les soirs pendant une période d'une année.
Mais pourquoi pas à l'ordinateur ?
Je sais pas. Je faisais ça le soir, mais au départ c'était une sorte de journal. J'avais commencé à l'écrire, donc c'était, je pense, que c'était en 2018. Vous savez qu'il y a le Dry January pour l'alcool, pas boire. Et moi, je m'étais dit, en fait, je suis pas intoxiqué à l'alcool, mais je suis intoxiqué sans doute aux réseaux sociaux. Donc je m'étais dit, le mois de janvier sans réseaux sociaux. Donc j'ai commencé comme ça. Voilà, je vais arrêter. Puis en même temps, quand je me suis arrêté, j'ai pas eu de syndrome de manque. Hein. C'était très décevant, mais bon, ça m'a rien fait du tout. Quoi.
Qu'est-ce que ça a changé d'écrire à la main plutôt qu'à l'ordinateur ?
Rien du tout. Mais il se trouve que là, bon, bah oui, là, voilà, je me suis aperçu. C'est-à-dire que je me suis aperçu récemment, là, en voulant le faire retranscrire, voilà, qu'en fait, voilà, il fait 230 000 signes, donc ça fait un livre, et je m'en étais pas aperçu, mais c'était un cahier. Voilà.
Ouais, mais c'est. En fait, ça change quand même des trucs, parce que j'imagine que vous écrivez pas d'une traite à l'ordinateur. Vous regardez, vous changez des structures, des copier-coller, des trucs comme ça, non ?
Guerre, mais non, je fais une correction extrême au niveau du style. Mais non, ce que je voulais dire là, c'est que si je le publiais, je reverrais certainement des choses. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tel quel, c'était lisible et publiable. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc voilà.
J'en profite, on a changé de pièce et on est dans votre bureau. Donc c'est là où vous écrivez les livres, j'imagine ?
Dans les cafés, beaucoup, et puis ici.
Juste, je décris, c'est une petite pièce avec d'un côté un bureau avec un écran d'ordinateur fixe, et puis à côté un tout petit bureau avec un petit ordinateur portable posé sur ces instruments-là qui permettent de les incliner et tout ça. C'est plutôt sur le petit que vous écrivez ou plutôt sur le grand ?
Ah, c'est que sur le petit. J'en ai acheté un grand qui m'a servi à pas grand-chose, et d'ailleurs il est éteint et... Non, j'ai jamais pu écrire sur le grand et sur les portables. Bah, je vous dirais, ça fait peut-être 15... Non, ça fait beaucoup plus que ça, parce que je crois que le premier portable Apple a dû sortir en 90. 80. En fait, depuis cette époque, j'écris sur des portables.
Et alors, à côté du petit bureau avec l'ordinateur portable, donc là où vous écrivez, juste à votre droite, à main droite, comme on dit, il y a quelques livres. Et je me suis dit que c'était peut-être une boîte à outils, c'est-à-dire quand vous avez une scène, vous dites, tiens, comment faisait Victor Hugo, ou comment, je sais pas.
Non, mais par contre, c'est une boîte à outils quand même, parce que c'est les œuvres complètes de Flaubert, là, dans la Pléiade, plus des œuvres sur Flaubert. En fait, j'ai acheté l'étagère pour ça. Et en fait, comme j'ai écrit un roman sur Flaubert et que là, j'écris un dictionnaire amoureux de Gustave Flaubert, là, effectivement, c'est un rapport, c'est vraiment une boîte à outils pour un livre... particulier, sur un auteur particulier. Voilà.
Flaubert, tant qu'on y est, comment vous l'avez rencontré ?
Ah ben, je l'ai rencontré à 18 ans, en fait, parce que bon, je connaissais Flaubert, j'avais dû lire Madame Bovary et quelques autres textes, peut-être. Mais je l'ai découvert avec le premier texte, le premier tome de la correspondance de Flaubert. Parce que donc, le premier tome... qui est peut-être un des plus intéressants avec le deuxième, parce que c'est sa jeunesse, sa formation. Donc on a le Flaubert enfant, on a le Flaubert au même âge que j'avais moi à l'époque. Et puis on a toutes les lettres à Louise Collet qui sont les plus connues, mais qui sont aussi les plus intéressantes chez Flaubert. Entre autres parce qu'elle parle de littérature, elle parle de théorie littéraire, entre guillemets. Et puis d'amour entre guillemets aussi, parce que c'est assez particulier, les déclarations d'amour de Flaubert à Louise Collet, du style « Je t'aime tellement que je t'aimerai encore quand j'en aimerai une autre », c'est pas mal, si, je ne la conseille pas. Je ne vous la conseille pas. Voilà, donc c'est là où j'ai découvert Flaubert. C'est-à-dire qu'en fait, je ne connais pas bien les biographies d'aucun auteur, mais celle de Flaubert, c'était celle que je connaissais le mieux parce que j'ai été un grand lecteur de sa correspondance. Donc voilà.
Alors on a changé de pièce, on est revenu dans le salon où il y a deux bibliothèques, mais pas très fournies, et vous m'avez dit qu'en fait vous vous débarrassez régulièrement des livres. Pourquoi ?
C'est-à-dire je déménage souvent et à chaque fois, par paresse, je m'allège un peu et donc les livres, je les donne et souvent je les donne au fur et à mesure. Et c'est ça que je trouve bien dans les livres papier par rapport au numérique. C'est-à-dire que si vous lisez un numérique, vous ne pouvez rien en faire. Un livre papier, vous pouvez le faire circuler. Moi, je n'ai jamais été bibliophile. Donc en réalité, je trouve que c'est bien de faire circuler les livres, quels que soient les livres en fait.
Mais alors la question, c'est lesquels vous gardez ?
Là, je garde des livres. J'ai gardé pas mal de livres qui ont rapport à la philosophie, par exemple, sans les avoir relus d'ailleurs. Je vois un vieux livre là-bas. Voilà, ça, c'est le livre. Alors, on parlait d'influence. Je crois que c'est celui-là. Et qui n'est pas un livre de littérature, qui est en très mauvais état. C'est une édition originale de l'époque, c'est 1000 plateaux de Deleuze et Guattari.
Qui n'est pas le plus évident, c'est assez ardu.
C'est très ardu et c'est un livre que je n'ai pas compris, c'est-à-dire je n'ai pas tout compris dans ce livre-là. Et je pense que c'est un livre qui a influencé beaucoup de gens, beaucoup de penseurs, beaucoup d'écrivains. Et en même temps, c'est un livre qu'on n'a jamais pu comprendre entièrement. Et je me demande si ces auteurs ont pu aussi comprendre ce qu'ils écrivaient. Par exemple, il y a une histoire extraordinaire, c'est le devenir animal, qui n'est pas devenir un animal, mais le devenir animal. La sexualité non génitale, qui est quelque chose d'extrêmement étrange quand vous réfléchissez. Et je pense que ce livre, un des plus grands du XXe siècle. En tout cas, c'est peut-être ce livre-là qui m'a le plus influencé, alors, pour le coup.
Et donc, vous le gardez comme un défi, c'est-à-dire, tant que vous n'aurez pas tout bien saisi, vous le gardez, quoi.
Non, je le garde par hasard. Comme les autres, il est là par hasard, il a escapé, il a surnagé. Attendez, après...
Et vous y revenez ou pas ?
Non, j'y reviens pas, mais je ne relis pas les livres. Il n'y a qu'un livre que j'ai relu, c'est le premier tome de La Recherche, c'est Du côté de chez Swann. Et je me suis aperçu qu'en réalité, on avait une lecture mauvaise, qui n'était pas réelle de Proust. En réalité, Proust était complètement fou. C'est un livre de drogué. Là, le premier tome est un livre... il est complètement... Enfin, on sait qu'il prenait beaucoup de substances, mais là, vous avez les murs qui bougent, etc., etc. Et quand on a les 75 feuillets, là, c'est... la proto-recherche, etc., ben on voit aussi qu'on a affaire à c'est le contraire de ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on a une image de Proust, d'un auteur très sage, etc., alors que c'est un auteur complètement extravagant. Et bon, voilà.
Mais ça, vous vous en êtes aperçu à la deuxième lecture, pas à la première.
Ah oui, la deuxième, oui. C'est une lecture qui est relativement récente. Autrement, je l'avais lue dans ma prime jeunesse. Non. Mais il y a une telle... Proust, quand même, c'est le côté où on a l'impression d'être quelque chose de très conformiste, de très tranquille. Moins maintenant, mais quand je l'ai lu dans les années 70 ou 80, c'était quand même... oui, ça faisait partie des... C'est-à-dire qu'on avait... Et on a toujours une... On a toujours une idée de la littérature comme quelque chose de très sage, de très tranquille, alors que c'est le contraire, parce qu'elle a toujours scandalisé, la littérature.
Juste à côté de la bibliothèque, sur la cheminée, il y a deux livres. C'est les seuls dont on voit la couverture, quoi, qui sont debout, comme ça, comme des trophées presque. Et il y a deux exemplaires, le grand format et le poche. C'est le livre Le Fumoir d'un certain Marius Joffray.
Oui, c'est un livre donc de mon fils et dont je suis très très content de le mettre en exposition parce que donc mon fils qui a été enfermé par la psychiatrie française qui n'est sorti qu'au bout d'une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine de jours, qui a été donc enfermé avec des délinquants, avec ce genre de personnes alors qu'il n'avait rien fait, qu'on l'avait emmené juste à l'hôpital pour une consultation. Voilà, et je suis très très fier de lui qu'il ait écrit ce livre. Je veux dire que je suis très fier qu'il ait écrit ce livre, qu'il ait pu l'écrire surtout. Et voilà, et l'alcool, c'est une maladie, c'est quelque chose de terrible. C'est très difficile de lutter contre l'alcool, voilà. Et voilà, c'est le livre de mon fils. Et je suis très content, justement, qu'il ait trouvé un public. Il ait même trouvé un public dans le milieu médical. Il est allé faire une conférence dans le centre de l'hôpital dont le nom m'échappe, du professeur Lejoyeux. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que moi, je lui ai dit, ce qui est important aussi, c'est quand c'est possible, être utile. Et donc là, c'est un livre qui est utile avec d'autres parce que ça dénonce quand même un état de fait qui est récent dans notre société, qui fait que, par exemple, moi, si ce soir, on allait dîner et que le soir, je vous dis, voilà, j'ai un ami à voir aux urgences de tel hôpital, je peux faire en sorte qu'on vous embarque en allant voir l'infirmier, en disant, vous savez, voilà. Et vous aurez beaucoup de mal à sortir. Et c'est ça qui est quand même dommage. Et c'est un engrenage. Alors moi, j'ai l'habitude de ne pas mettre la faute sur les personnes, mais sur des systèmes qui se sont formés. Et c'est dénoncé par beaucoup de gens. Même d'ici, je vois passer les manifestations. Une fois, il y a une manifestation comme ça. Mais c'est bien aussi que les romanciers fassent avancer les choses. Alors, c'est à un très petit niveau. Mais vous avez, par exemple, on dit que la case de l'oncle Tom a fait avancer la libération des esclaves aux États-Unis.
Je vois beaucoup de Pléiades dans votre bibliothèque. Alors, il y en avait dans votre bureau avec Flaubert. Mais là, il y en a aussi beaucoup. Et surtout, des Pléiades un peu abîmées, quoi. Qui ont été manipulés beaucoup. Vous n'êtes pas le genre à garder les Pléiades juste comme un conservatoire ou pour l'appareil critique. Vous les lisez vraiment, vous n'avez pas la version poche à côté.
Ah non, non, c'est toujours pour les lire. Et alors, il y a beaucoup de Pléiades parce qu'ils survivent aussi, parce qu'ils ne s'abîment pas au fil des ans. Et puis ceux qui sont très, très abîmés, alors là, c'est ceux-là, c'est les Chateaubriand. Mais ce n'est pas parce que je les ai lus et relus, c'est que je les avais achetés d'occasion. Mais non, non, c'est non, mais les Pléiades, j'adore les Pléiades pour les lire parce que c'est très bien fait. L'appareil critique, par exemple, l'appareil critique de la correspondance de Flaubert est magnifique. J'ai récemment lu un livre aussi sur les écrits des camps, sur les livres, et l'appareil critique est extraordinaire. C'est assez unique au monde, l'appareil critique de la Pléiade, en fait.
Merci beaucoup, Régis Geoffrey.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Retour en studio et je rappelle Microfiction 2022. C'est le nouveau recueil génial d'histoires courtes de Régis Geoffrey chez Gallimard. Et chez vous, Françoise Bourdin, vous êtes toujours avec nous. Comment sont rangés les livres ?
Ils sont éternellement rangés. La manière dont je les range ne me satisfait jamais tout à fait.
Ah.
Alors effectivement, vous avez les collections. C'est chouette de mettre des collections ensemble. Après, on dirait que vous les avez achetées au kilomètre. On peut les mettre par thème. Mais dans ces cas-là, c'est philopathe et pataphile, c'est pas beau esthétiquement. On peut esthétiquement les ranger par taille, mais le classement devient absurde. Donc ça ne va jamais. Donc je passe ma vie à bouger mes livres et j'en ai énormément.
Et est-ce que vous faites partie de ces gens qui ne mettent dans la bibliothèque que les livres qu'ils ont lus? Ou au contraire, vous aimez avoir des tas de livres pas encore lus et de bonne lecture, quoi.
Ah, complètement. Il me faut de la lecture d'avance, mais dans ces cas-là, elle n'est pas dans la bibliothèque. Elle est empilée côté de mon lit.
Ah, voilà. Donc, si.
Et
okay.
Il y a vraiment deux piles de chaque côté d'une bonne douzaine de bouquins parce que je veux de la lecture d'avance. Mais je ne sais pas, ça serait comme de manquer de café ou de... Non, non, c'est indispensable d'avoir de l'avance. Et en effet, ne rentre dans ma bibliothèque que ce que j'ai lu. Ou alors, éventuellement, un livre que mes filles ont adoré. Elles vont me dire, lis ça un jour. Bon, je le mets un petit peu de côté en disant j'ai déjà beaucoup, beaucoup de choses à lire. Donc voilà, mais sinon, non. Après, il y a des choses que je n'ai pas lues, je l'avoue, mais qui me viennent de famille, de la bibliothèque de mon père. Je n'ai pas beaucoup lu Lord Byron, mais bon, voilà.
Françoise Bourdin, il y a une bougie qui est restée allumée, il y a un accident, il y a le feu. Vous prenez lequel ? Vous avez le droit à un livre.
J'ai le droit qu'à un seul livre.
Dans votre bibliothèque.
Malville.
Pourquoi ?
Malville de Robert Merle, parce que justement, c'est l'histoire d'une survie.
Ah,
si tout crame, comment on va s'organiser ?
Et c'est qui vos auteurs préférés, ceux qui sont vraiment en bonne place dans la bibliothèque ?
Alors,
vous avez toute la collecte, quoi.
Stephen King.
Stephen King ?
Ah oui, Stephen King. J'adore me faire peur. Voilà, j'adore les films fantastiques. Enfin, plus épouvante que fantastique.
Mais vous écrivez jamais d'épouvante ?
Non, jamais. Mais je trouve que la barre est tellement haut. Moi, j'aurais aimé écrire Le silence des agneaux, hein, par exemple. Mais bon, la barre est haute.
C'est Thomas Harris,
oui, je
Le
crois.
Silence des agneaux. Ouais. Ah d'accord, mais je ne savais pas ça.
Et voilà, et sinon, bah, il m'arrive de temps en temps quand même de relire quelques classiques de poésie. J'ai une petite faiblesse pour Musset, Baudelaire évidemment, le maître pour moi. Il y a des auteurs que j'ai adorés que je relirai jamais. Je pense à Colette et à Giono, parce que c'est vraiment une époque, c'est un univers. Je ne sais pas si ça fonctionne encore aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui. Et je veux garder cette magie.
Ah oui, par peur voilà. Justement que ça ne fonctionne plus.
Tout à fait.
La voix est livre.
Nicolas Caro.
La voix est livre, suite et fin, avec Françoise Bourdin qui publie Un si bel horizon chez Plon, un roman qu'on trouvera sans doute chez Stanislas Rigaud, de la librairie Lamartine.
Bonjour Stanislas Rigaud.
Bonjour Nicolas.
Alors, vous m'avez dit avant d'allumer le micro, aujourd'hui j'ai deux livres à la fois inattendus et magnifiques.
Et je pèse mes mots.
Allez-y.
Alors, le premier c'est Frédéric Laffont, Une vie par le menu aux éditions de l'Iconoclaste, qui vient d'avoir le prix de la passion organisé par l'hôtel Grand Powers.
Dont vous faites partie du jury.
Dont je fais partie du jury et je suis très très content qu'il ait remporté ce prix. C'est un livre que j'adore, qui va nous raconter l'histoire de Bernard Pacot, le grand cuisinier, et qui va nous raconter, au-delà de ce destin hors norme, c'est aussi une traversée de l'histoire de France. On va remonter il y a quelques décennies au fin fond de la campagne française. On va découvrir cet homme qui a forcément à ce moment-là été un petit enfant, qui de la mère est parti du village, plus ou moins chassé, mère célibataire, fin fond de la campagne française, il y a 70 ans, vous imaginez, c'est pas très simple pour elle. Et donc il va commencer par être éduqué par ses deux grands-parents, deux paysans taiseux, et qui vont lui apprendre notamment la valeur du travail et la valeur des choses. Et c'est parti. Et c'est un roman magnifique, avec une langue d'une finesse et d'une beauté. Vous savez, ce genre de livre, et d'ailleurs les deux livres dont on va parler aujourd'hui ont un peu cet esprit, c'est-à-dire à la fois une langue tout en ramassée, toute tenue, sont deux livres qui ne sont pas très gros. Mais alors, cette tenue n'empêche jamais la beauté, en fait, de cette langue, la précision et la poésie. C'est un très, très gros coup de cœur de l'équipe. Et depuis maintenant quelques temps, il y a un gros coup de cœur de nos clients. En fait, il faut absolument découvrir Une vie par le menu de Frédéric Laffont, premier livre de cet homme qui est un grand journaliste, qui a eu le prix Albert Londres. Et à mon avis, ce n'est absolument pas son dernier.
Et c'est chez l'Iconoclaste. C'est quoi, en un mot, le prix de la passion ?
Alors, le prix de la passion, c'est un prix qui est donc organisé par Julie Marangle, directrice de l'hôtel Grand Powers, et qui veut remettre, effectivement, à un livre qui n'a pas eu de grandes retombées médiatico ou qui n'a pas eu non plus de grand prix, qui serait passé au travers des mailles, entre guillemets, du filet de l'actualité des derniers mois. Et la thématique de la passion est à prendre au sens large. C'est-à-dire que derrière ce titre, on n'est pas du tout dans obligatoirement la passion amoureuse. En fait, c'est les passions. Et c'est lui qui a gagné ce prix cette année. Et autant vous dire que ça m'a mis en extrême joie.
Et lui aussi, ça doit le mettre en joie quand on est défendu par Stanislas Rigaud. Bonjour. Alors, deuxième livre d'un éditeur tout neuf qui est né il y a quelques mois, qui s'appelle Le bruit du monde. Ça, c'est le nom de l'éditeur qui est basé à Marseille. Et celui-ci, c'est De notre monde emporté de Christian Astolfi. Qu'est-ce que c'est, Stanislas Rigaud ?
Alors, c'est aussi un grand choc. Premier roman qui est grosso modo, comment vous dire, c'est un roman social. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui, dans les années 70, va intégrer les chantiers navals de la Seine-sur-Mer. Et on va le suivre sur plusieurs années. On va suivre son destin et on va suivre forcément le destin aussi de ces chantiers avec les années 80, avec la crise, avec l'histoire de l'amiante. C'est bouleversant. C'est un roman qui m'a profondément, profondément touché, qui n'est pas sans me rappeler le Laurent Petit-Mangin. Qui avait effectivement défrayé la chronique il y a 2 ans de ça, si je me souviens bien maintenant. Et voilà, des romans sur la classe ouvrière qui sont à la fois extrêmement forts, mais avec une profonde humanité, une profonde connaissance des lieux. Moi, j'ai été totalement et emporté et bouleversé par ce livre, qui est une des grandes découvertes, qui vient d'avoir d'ailleurs le prix France Bleu Page Libraire.
Bah, décidément, c'est que des bouquins à prix.
Que des bouquins à prix, et heureusement, parce que ce sont deux très très beaux livres.
Christian Astolfi, De notre monde emporté, c'est au bruit du monde, et Frédéric Laffont, Une vie par le menu, avec une cuillère géante comme ça sur la couverture, c'est à l'Iconoclaste, prix de la passion. Merci beaucoup pour votre passion, Stanislas Rigaud.
Merci Nicolas.
Retour à Europe 1, toujours avec Françoise Bourdin et Héloïse Goy, qui nous a rejoint. Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas, bonjour Françoise Bourdin.
Bonjour.
Alors, quel est le programme Héloïse ?
Eh bien, de la littérature jeunesse, vous le savez
oui,
bien.
Pour les tout jeunes.
Oui,
mais pas que. Non. Est-ce que vous connaissez la chanteuse Pomme, Françoise Bourdin, artiste féminine des Victoires de la Musique l'année dernière? Eh bien, Pomme, qui s'appelle en réalité Claire Pomme, ne se contente pas de composer et de chanter, elle écrit aussi des livres pour enfants. Celui-ci s'appelle « Sous les paupières ». Il est magnifiquement illustré par son amie, qui est aussi chanteuse, Pauline de Tarragon. Son nom de scène, c'est Pyjama, avec un « i ». Et alors, ce livre est un petit bijou qui nous parle du pouvoir des rêves. Et je suppose que ça parle aux écrivains, ça, le pouvoir des rêves, François Bourdin.
Certainement, bien sûr.
C'est pour ça que je disais, il parle aussi aux grands, ce livre. Alors là, on suit la petite Sophia, qui a un pouvoir magique. Lorsqu'elle s'endort pour la sieste, un monde merveilleux apparaît sous ses paupières. Et là-bas, on trouve des maisons en forme de champignons, qui sont peuplés par des lutines, des loutres, sont des bateaux. Et surtout, chacun peut se coiffer et s'habiller comme il le souhaite. J'aime beaucoup cette phrase qu'on trouve dans le livre que je vous cite. Dans ce monde, Sophia est un peu différente, mais différente, c'est beau. Tout un petit peu comme ça, c'est très joli. Alors évidemment, Sophia a des amis dans cet univers magique. Et parmi elles, il y a la fée moustache qui, comme son nom l'indique, arbore une très belle moustache. Elle aime aussi les nachos et les mammifères marins. Ne posez pas de questions, c'est comme ça. Et il y a aussi la fée...
Les poissons-chats.
Oui. Et il y a aussi la fée ministre, en deux mots, qui clame haut et fort qu'une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Vous avez compris le message. Les auteurs souhaitent nous parler de rêves, mais surtout de tolérance et d'égalité dans ce livre. Elle nous raconte pourquoi elle souhaitait spécifiquement s'adresser aux enfants sur ce sujet.
Je pense que Pauline et moi, on est toutes les deux assez révoltées par les injustices du monde dans lequel on vit. Et disons que c'était une jolie manière de canaliser de la colère qu'on a en nous et qu'on met aussi dans d'autres choses. Mais je pense que le fait de le mettre dans un livre destiné aux plus jeunes enfants, c'était comme une manière plus douce et plus teintée d'espoir de le faire.
Oui, on va aussi toutes les deux chez le psy, ce qui permet de guérir notre enfant intérieur et de savoir ce dont on a besoin dans les livres pour enfants. Par exemple, si un plus jeune, on se sentait seul, on se sentait bizarre, maintenant on l'a bien analysé et on peut le mettre dans les histoires pour d'autres enfants qui viendront après nous. C'est ça qui est assez beau en fait dans le fait de vieillir.
Voilà, c'est assez beau de vieillir et du coup, même les adultes aiment regarder ce livre. En tout cas, moi, je me suis régalée. Ce livre s'adresse aux petits, mais aussi aux grands, d'autant qu'il nous propose un cahier de rêves à remplir. Mmh. Jusqu'ici, je crois que tout le monde rêve. Et on trouve aussi, à la fin, un encart de plusieurs pages à découper pour, par exemple, habiller Sophia. On nous propose plusieurs vêtements. Il y a aussi des cartes d'identité de la fée ministre, de la fée moustache et de la fée d'hiver. Aussi, je ne vous en ai pas parlé, c'est une fée qui a perdu son chien. Et puis, cerise sur le gâteau, des stickers de tous les personnages de l'histoire.
Vous aimez bien les stickers.
J'adore ça. Et les dessins de Pauline de Tarragon sont tellement jolis, ils sont tellement rigolos et poétiques que c'est, je trouve, une raison suffisante pour offrir ce livre. J'en ai déjà collé un petit peu partout chez moi. Je vais vous donner ce qui reste, mais c'est pas très poli. Ça s'appelle « Sous les paupières » de Claire Pomé et de Pauline de Tarragon et c'est édité chez La Ville Brûle.
Parfait, merci Héloïse. Françoise Bourdin, vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu?
Oui. Je ne vais pas vous répondre une bêtise, je pourrais dire, pour faire bien, le grand mot. C'est pas vrai. Le premier livre que j'ai lu, c'est Mon ami Flicka.
C'est quoi ?
Mon ami Flicka était une histoire qui se passe dans le Wyoming d'un garçon qui a une jument dont il est totalement fou. Et il y a plein d'événements. Et voilà. Et puis il y a un deuxième tome, il y a le fils de Flicka, puis il y a l'herbe verte du Wyoming. Et bien sûr que le fils de Flicka a déclenché chez moi un amour fou des chevaux qui a rempli des décennies de mon existence.
C'était La Bibliothèque Rose ?
Non, d'accord. C'était un livre comme ça, c'était un livre de jeunesse, mais...
On va essayer de retrouver l'auteur et un exemplaire. Mm-hmm. Vous partez en Corse cet été, Françoise Bourdin ?
Je ne pars pas l'été, parce que l'été, c'est le moment où voilà, la famille a un petit peu besoin de moi. L'une de mes filles qui a 3 enfants est contente de me les confier. Donc, voilà, puis bon, la maison est vraiment très agréable l'été. Je partirai plutôt cet hiver.
Je dis ça parce que votre roman s'y passe et il y a un très bon guide, le dictionnaire amoureux de la Corse de Patrice Franceschi, le baroudeur, qui vient d'être publié. Je vous conseille. Et votre roman à vous, Françoise Bourdin, je rappelle, Un si bel horizon, c'est chez Plon. Merci beaucoup, Françoise Bourdin.
Merci à vous.
À bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci aussi à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, justement, et à Grégory Delpech pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.